Bonsoir à tous, au micro Bagassi Koura, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique. Comme tous les lundis soirs dans votre émission, les résultats et les analyses de sport, comme vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Et nous attendons bien sûr vos appels en direct composés. 001-202-619-31-40. Je répète, 001-202-619-31-40. Et avec nous ce soir, nous avons Jules Valentin Ngoué, qui est à Libreville, au Gabon. Bonsoir, Jules.
Bonsoir, Bagassi. Bonsoir à tous.
Voilà notre consultant incontournable. On s'apprête à accueillir d'un moment à l'autre Salif Kabore et Élisée Mpatine à Boïcon. Jules, on commence avec vous, avec cette dernière information qui vient de tomber cet après-midi, ce soir même. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a annoncé le limogeage de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Ce dernier est victime d'une seconde saison décevante après avoir conduit le club au sacre de la Ligue des Champions dès sa première année. Le nom de son successeur, nous dit-on, serait annoncé la semaine prochaine. Jules, première réaction sur ce limogeage de Carlo Ancelotti?
Oui, il faut dire que le Real Madrid est affamé de trophées et que tout comme le FC Barcelone, le Bayern Munich, ce sont des équipes qui ne badinent pas sur les résultats. Donc, même si Ancelotti a été particulièrement peu heureux avec de nombreux joueurs blessés en fin de saison, il paye peut-être... tout simplement pour cette disposition traditionnelle du Real qui veut que chaque année, qu'il y ait des résultats, qu'il n'y ait pas d'année blanche.
Alors, on me signale que Salif Kabore est en ligne de Ouagadougou. Bonsoir, Salif.
Bonsoir, Bagassi. Bonsoir à toutes et à tous. C'est très heureux de vous accueillir à Ouagadougou.
Oui, merci bien. Alors, Salif, est-ce qu'on ne demande pas un peu trop aux entraîneurs de remporter chaque année une... les trophées, est-ce que c'est pas un peu trop demandé? Peut-être qu'il doit avoir de temps en temps des saisons creuses où rien ne marche.
Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison de poser le problème de cette façon. Mais vous savez, quand un entraîneur donc s'engage avec n'importe quelle équipe, il y a des objectifs qui sont là. Et parmi ces objectifs-là, il y a effectivement donc il faut remporter des trophées. Il y a aussi des objectifs à longue durée, ça dépend véritablement donc du contenu même, du contrat sur lequel vous vous engagez. Et là, si vous vous engagez sur un contrat dans lequel vous promettez effectivement donc d'atteindre les objectifs donc des dirigeants de ce club et que vous n'avez pas à le faire, vous n'avez qu'à mordre vos propres doigts. Mais donc, je crois que c'est quand même difficile pour beaucoup d'entraîneurs actuellement à travers le monde de respecter convenablement leur contrat. Parce que ce qui guide les gens, généralement, ce sont les sous, c'est l'argent qui est derrière. On estime quand il y a un contrat avec des objectifs assez clairs qui est de rapporter, par exemple, un titre national engagerait beaucoup d'argent dans le contrat, par exemple, sur le plan salarial. Donc les entraîneurs, généralement, ils sont sous pression. Mais je crois qu'aucun club aujourd'hui dans le monde, je ne dirais pas aucun club, mais en réalité, 90% des clubs aujourd'hui se fixent comme objectif de remporter quelque chose dans leur pays ou à travers les compétitions internationales.
Voilà, Salif Kabore, VOA Ouagadougou. Alors, Carlo Ancelotti n'est pas seul dans l'actualité, je veux dire, les entraîneurs. Il y a aussi Hervé Renard qui atterrit ce soir, cet officiel qui a atterri à Lille en Ligue 1 française. Jules, est-ce que vous avez compris qu'un entraîneur que tout le monde veut en Côte d'Ivoire, qui a quand même ramené le trophée dans ce pays-là, à la dernière minute, plie bagage?
Oui, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il a été très critiqué pendant les éliminatoires, qu'il a failli perdre son poste peut-être le fait que dans cette poule, il y a eu 3 qualifiés, que la Côte d'Ivoire s'est rattrapée en fin de parcours, il pouvait partir. Donc, il a sûrement gardé cela, il a compris que le public, que les dirigeants étaient souvent très prêts à faire des revirements, donc il a préféré précéder tout cela, aller tenter sa chance performance dans le championnat français, qui est un championnat de haut niveau.
Voilà, et le club de Lille, dans le nord de la France, nous signale que c'est demain que donc Hervé Renard va signer son contrat, un contrat de 3 ans. Le Français a quitté la Côte d'Ivoire, il faut le dire, ce week-end, après un accord avec la FIF, la Fédération ivoirienne de football, qui a accepté vendredi donc à la demande d'Hervé Renard, comme je le disais, de mettre fin de façon anticipée à son contrat. Et sur les raisons de son départ, on écoute Hervé Renard.
Lorsque j'ai signé en Côte d'Ivoire en août 2014, le président Sidi Diallo m'a demandé de rebâtir une équipe en incorporant de jeunes joueurs, en faisant plus ou moins abstraction de la Coupe d'Afrique 2015, ou en s'en servant comme un tremplin pour que l'équipe soit très compétitive en 2017. Mais comme on ne choisit pas tout le temps en football, on a eu la chance de remporter ce sacre en février 2015, ce qui a fait que le chemin et la durée ont été beaucoup plus courtes que prévu pour rebâtir une équipe performante. Donc après ce succès, je me suis posé la question, après avoir participé aux 5 dernières Coupes d'Afrique des Nations, la première en 2008 en étant assistant de Claude Leroy pour l'équipe des Black Stars du Ghana, et les 4 autres suivantes, 3 avec l'équipe nationale de Zambie et la dernière en date avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Qui plus est, en ayant remporté 2 titres en 2012 et en 2015, je me suis dit que, d'une part, je vous l'avoue sincèrement, il me serait difficile de faire mieux sur ce continent. Et je me suis dit qu'il était temps de relever d'autres challenges.
Voilà, donc Hervé Renard, âgé de 46 ans, qui avait signé en août 2014 un contrat de 2 ans renouvelable avec la FIF, 6 mois avant de remporter avec les éléphants la CAN 2015 disputée en Guinée équatoriale. On écoute Hervé Renard qui donc revient sur son séjour en Côte d'Ivoire.
Mon aventure avec la Côte d'Ivoire a été... comme vous le verrez dans mon communiqué, exceptionnel. Et je pense sincèrement que c'est le meilleur moment pour arrêter notre collaboration après un tel succès. Je suis persuadé qu'un jour je reviendrai sur le continent africain parce que c'est grâce à ce continent, c'est grâce à la Zambie, c'est grâce à la Côte d'Ivoire surtout dernièrement qui m'ont permis d'avoir une carte de visite un peu plus importante. Donc je remercierai jamais assez ce continent de m'avoir permis de prouver les qualités que je possédais pour retourner dans un pays où il n'est jamais facile de s'imposer. Donc je ferai tout pour le faire.
Voilà, je ferai tout pour le faire. Des propos de Hervé Renard, l'ex-sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Alors, Salif, comment vous avez vécu ces derniers jours-là avec l'annonce de son départ? Salif?
Oui, c'est la sélection ivoirienne. Voyez-vous, pour une équipe ivoirienne qui balbutiait avant la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, arrive donc à se qualifier parce qu'on sait qu'à l'intérieur, ça n'allait pas entre joueurs, ce qui a même motivé le départ de l'équipe nationale de Didier Drogba, on le sait déjà, et que cette équipe-là arrive en Guinée équatoriale, arrive à remporter effectivement le trophée, eh bien, ce n'est pas évident que Hervé Renard puisse rééditer l'espoir. Ce n'est pas évident que Hervé Renard puisse faire mieux.
Ouais.
Donc, la seule solution pour lui, c'était véritablement de partir de la Côte d'Ivoire avec la tête haute, avec le sentiment, en tout cas, d'avoir rempli une mission et laisser des traces qui parleront toujours de lui,
ouais,
au lieu donc de rester pour tenir, en tout cas, ou d'effacer cette trace donc, qu'il a lui-même tracée avec la sélection ivoirienne.
Alors Salif,
décision, oui,
oui, vous restez avec nous. On nous signale qu'il y a un autre Salif, Salif Diakité, qui est en ligne de Bamako, au Mali. Ah. Un de nos auditeurs, on va... allô, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, alors on vous écoute.
Oui, bon, moi je dirais que ce départ de Hervé Renard était bien prévisible. Parce que heureusement pour lui que tout est bien passé avec la sélection nationale ivoirienne pendant la CAN. Sinon, si ça avait passé autrement, on pouvait s'attendre bien sûr de son départ à la tête de la sélection ivoirienne. Mais comme il a si bien dit, tout est bien passé. Il a pu remporter sa deuxième CAN avec les éléphants.
Oui.
Et donc, il a bien fait de partir ça comme ça parce que en Afrique ou partout dans le monde ailleurs, je dirais, quand ça ne va pas, on pense seulement que c'est la faute aux entraîneurs. Tel est le cas aujourd'hui, Ancelotti. Il a été limogé aujourd'hui même.
Un peu comme l'adage qui dit « avant que les choses ne vous quittent, il faut les quitter ».
Ah oui, bien évidemment. Donc, il a bien fait de partir, quoi.
D'accord. Merci infiniment. C'était Salif Diakité, l'un de nos auditeurs à Bamako, au Mali. Voilà, on revient aussi sur cette actualité du jour. Hein. C'est bien sûr cette annonce ce week-end, hier dimanche d'ailleurs, de Didier Drogba, l'ancien attaquant des éléphants, âgé de 37 ans, qui a annoncé hier qu'il quitterait donc Chelsea, son club en Angleterre, à la fin donc de cette saison, et qu'il entendait jouer encore un an de plus, au moins, dans un autre club avant de prendre sa retraite. Disons que pour son dernier match hier avec les Blues contre Sunderland, qui était aussi son dernier à Stamford Bridge, Didier Drogba portait le brassard de capitaine. Jules, à Libreville, est-ce que vous pensez que Didier Drogba pourrait encore briller au haut niveau, vu son âge notamment?
Disons qu'on disait la même chose de Roger Milla il y a quelques années. On a vu, l'histoire a prouvé que c'était possible. Mais toujours est-il qu'il est normal que de grandes vedettes comme Didier Drogba soignent leur fin de carrière, parce que la fin de carrière, elle est sportive, mais elle est aussi financière. Et donc, il a retrouvé des sensations quand il a quitté Galatasaray, où il n'entrait pas tellement dans les plans de jeu. Il est revenu dans son équipe d'identification qui est Chelsea. Et finalement, on pensait qu'il allait finir avec les jeunes, encadreurs de jeunes et consorts. Mais on a vu qu'il a fait une saison acceptable. Et donc, finalement, ça lui a donné la suite dans les idées. Et je suis bien content qu'une icône comme celle-là continue à jouer les ambassadeurs du football africain.
Voilà, et on va écouter un de nos auditeurs qui, lui, apprécie beaucoup Didier Drogba, d'ailleurs, comme la plupart des fans du football en Afrique. C'est l'ami que nous avons joint à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Didier Drogba nous a beaucoup marqué, surtout nos peuples africains, à travers son parcours dans le football. Ça reflète vraiment la fierté du peuple africain tout entier. Le voir jouer en Europe, gagner des trophées, gagner des médailles. Tout le monde parlait de lui. C'est vraiment amazing. C'est vraiment fantastique.
Alors, il dit qu'il veut jouer encore pour une saison. Vous pensez qu'il a les ressources de tenir encore au haut niveau?
Non, apparemment, certainement, il peut tenir parce qu'il y a de ces gens-là, d'autres joueurs qui sont plus âgés que lui. Vous voyez, le gardien congolais qui dit à Bamuteba, il a 39 ans, mais il est encore en train de jouer. Bientôt, là, il va avoir 40 ans. Lui, si vous regardez Van der Star, l'Hollandais qui jouait pour Manchester United, il avait 40 ans, il jouait au football. Pourquoi pas lui? Il est capable de faire parce que je connais Didier Drogba, je connais ses capacités, il est capable.
Voilà, il est capable. Donc, Salif Didier Drogba et Samuel Eto'o, Salif Kabore, Didier Drogba et Samuel Eto'o sont les deux joueurs. On se demande à qui va raccrocher avant qui.
Mais bien sûr, ils sont véritablement de la même trempe, j'allais dire. Ouais. Et ce sont ces deux mêmes joueurs qui ont été critiqués, vivement critiqués.
Dans leur équipe nationale surtout.
Dans leur pays, oui, dans leurs différentes équipes nationales. Vous voyez, et en Afrique, on a l'habitude donc de tuer le joueur avant qu'il ne se meure eux-mêmes. Et c'est là toute la difficulté. Vous voyez, Didier Drogba, depuis quelques années, 2 ou 3 ans, il est décrié en équipe nationale, même si la tension n'était pas tout à fait donc connue par le grand public, mais il y avait quand même des étincelles à l'intérieur. Mais tout compte fait, il a réussi quand même à coacher ses camarades jusqu'à leur qualification pour Guinée équatoriale où il n'a pas pris part. La même chose chez Samuel Eto'o, où on a constaté à un moment donné que c'était la guerre au niveau de la fédération camerounaise de football qu'il a emporté au sein de l'équipe nationale. Vous voyez, donc, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille véritablement à garder nos différentes stars au-delà de leur sommet, au lieu de les tirer.
Jusqu'à la fin de leur talent, jusqu'à la fin de leur force sur le terrain. Parlons maintenant des résultats du deuxième tour aller du championnat d'Afrique de moins de 23 ans. Le Botswana et la Zambie ont fait match nul, un but partout. La Mauritanie et le Mali ont également fait le même score, un but partout. Le Ghana a battu le Congo 1-0. Et notons que selon Claude Leroy, le sélectionneur du Congo-Brazzaville, le Ghana aurait violé le règlement en alliant des joueurs plus âgés. Et le Rwanda a perdu face à l'Ouganda 2-1. La Tunisie, donc, qui a eu du mal à battre le Soudan 1-0. 0-0 entre Sierra Leone et Cameroun. Même score entre le Zimbabwe et le Swaziland. Et parlons maintenant de basketball dans ce sport. Hein, Cleveland, pour signaler que Cleveland a pris un avantage sans doute décisif dans la finale de la conférence Est face à Atlanta, en remportant une troisième victoire consécutive 114-111 en prolongation dimanche. Les Cavaliers peuvent se qualifier dès mardi pour leur première finale NBA depuis 2007, la deuxième de leur histoire s'ils remportent le match numéro 4, toujours dans leur salle. Pour LeBron James, ce sera sa cinquième finale NBA consécutive. Il a eu 37 points, 13 passes et 18 rebonds, soit le 12e triple-double de sa carrière en play-off. C'était donc hier soir. Et dans la finale de la conférence Ouest, les Golden State Warriors mènent aussi par 3-0 face aux Rockets de Houston. Et pour en parler, nous avons en ligne du Maryland un spécialiste de basketball, Eugene Pewa Pelema. Bonsoir Eugene, Eugène, bon, pardon.
Bonjour Bangassi, comment allez-vous?
Oui, ça va très bien. Alors, donc, vous suivez chaque jour ce championnat de basketball et vous avez été dans l'équipe de basketball au haut niveau sur le continent, notamment avec les Fauves du Bazou Bangui. Et comment est-ce que vous voyez donc la suite? Quelles peuvent être les chances des Hawks d'Atlanta et aussi les Rockets de Houston, qui sont les deux équipes qui sont menées 3-0 chacune?
Mais écoutez, selon les statistiques, les équipes qui ont été menées 3-0 généralement perdent leur quatrième match et sont éliminés. Mais bon, comme le sport est le sport, et que c'est le terrain qui commande, en fonction des matchs qui sont joués, par exemple le match d'hier, Cleveland a quand même peiné, malgré l'expulsion d'un des meilleurs joueurs d'Atlanta, et a été obligé de l'arracher.
Oui, en prolongation. Oui.
Avec un super match de LeBron James, qui est maintenant qui a le numéro 2 au record des triple-doubles, donc 3 statistiques, vous avez plus de 10. Et sinon, côté Golden State, au troisième match, le Golden State ont sérieusement dominé les Houston Rockets.
Et on se rappelle, c'est 40 points de Steph Curry.
Tout à fait. Il a été extraordinaire. Et on se demande si mentalement et psychologiquement, ils vont pouvoir gagner le match de ce soir qui se joue quand même à Houston.
Oui. Alors, Houston avait déjà été là il y a quelques jours, 3-0, et a pu s'en sortir. Mais je crois que, voyant la forme de l'équipe de Californie, les Golden State notamment, on ne doute pas que ça va être très, très difficile pour les Rockets de s'en sortir.
Mais bon, il y a des moments. À mon avis, ils ne vont pas s'en sortir. L'équipe de Golden State est probablement l'équipe la plus complète du championnat. Elle a d'ailleurs terminé premier de la saison régulière.
Oui.
Et elle a prouvé pendant les playoffs qu'elle est vraiment l'équipe à battre.
Oui.
Elle a une équipe, c'est une équipe qui est bien huilée, avec plusieurs possibilités en dehors de Stephen Curry. Toute l'équipe, c'est un jeu d'équipe. C'est-à-dire, c'est une équipe qui est un collectif qui est très, très bien rodé.
D'accord.
Et je pense que ce soir, il devrait l'emporter. Comme cela devrait se faire.
Voilà. On me signale que nous sommes à la fin de cette émission. Avant de laisser nos consultants sur le continent partir, Jules, est-ce que la NBA, en un mot, très rapidement, la NBA, c'est quelque chose qui est suivi à Libreville?
Oui, bien sûr, surtout dans les milieux scolaires et universitaires, c'est le sport qui est le plus suivi pratiquement par les universitaires en particulier.
Et Salif, chez vous, à Ouaga?
Chez nous, à Ouaga, à propos du championnat?
Oui, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, effectivement, il n'y a que ici au Burkina Faso, c'est la pause pour l'instant.
D'accord.
Puisque on est presque en fin de saison, les compétitions.
D'accord, merci. C'est tout donc pour cette édition de Sporama. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Sporama.